With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On your marks.
Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Cette journée, c'est la dernière, elle se termine bien pour la France avec une 33e médaille en or pour les handballeuses. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des Jeux, Laurent Vergne, Maxime Dupuis sont à mes côtés, mais également Cyril Morin, Christophe Godot et Raphaël Brosse. On a fait venir la crème de la crème de la rédac pour la DER. Salut les gars, vous êtes en forme ?
Salut Adrien.
Salut.
En forme, en forme. Moi en forme olympique quand même qu'il y a 15 jours.
Ouais, bah ça m'étonne pas ça.
On est rincé, on n'a ramené aucune médaille.
Tout ça pour ça.
Bravo. Émission spéciale, bilan. Aujourd'hui, on évoquera notre plus belle émotion, notre plus grande surprise. Et nous nous projetterons aussi sur Paris 2024 dans la question qui fâche. Vous verrez ça. Enfin, dans Retour de Tokyo, nous recevons Camille Lecointre et Aloïs Retornaz, médaillés de bronze en voile en 4,70. L'heure olympique, c'est parti. Allez, on débute avec la plus grosse émotion des Jeux dans ce podcast de l'Olympique spécial bilan, disons. Pour en parler, on accueille Cyril Morin. Alors, honneur à toi, Cyril, l'invité. Quelle a été ta plus grande émotion durant cette quinzaine ?
Ça a été du judo et ça a été ce team event pour clore cette fantastique semaine de judo qu'on a vécue. Parce qu'il y avait un peu tout ce qu'on attend du judo et des valeurs du judo. J'ai fait longtemps de ce sport et c'est des choses qui m'ont longtemps tenu à cœur et j'ai retrouvé tout ça dans cette compétition-là. Gamin aussi, j'ai fait des compétitions en équipe et j'ai toujours trouvé que l'intérêt de l'équipe au judo était quand même sympa, se battre pour l'autre et permettre à l'autre catégorie de bien se lancer. Et puis, il y a eu le scénario de la journée complètement fou parce que les Bleus, ils ont commencé avec un quart de finale au couteau face à Israël, avec Margot Pidot qui est revenue combattre et qui a réussi à gagner avec un hippon au Golden Score. À ce moment-là, on faisait pas les malins. Et finalement, il y a eu cette finale avec ce décorum incroyable face au Japon. Donc, c'était déjà l'affiche de rêve. Et puis voilà, moi, j'ai eu un sentiment de plénitude totale, une confiance totale en ces athlètes-là, en ces champions-là. Et l'émotion juste derrière la victoire finale, j'ai pas vécu quelque chose de plus grand pendant ces JO parce que c'était des champions, mais parce que c'était aussi des gamins tout simplement qui étaient ravis et fiers de ramener cette médaille-là. Donc il y a eu vraiment les frissons à ce moment-là, bien accompagnés par les commentaires d'Eurosport. Donc grand moment pour moi.
On s'est tous régalés, c'est vrai, sur ce moment-là. On a tous en tête, tu disais, les gamins, Teddy Riner qui soulève Clarissa Agbayinou, qui la laisse retomber. C'est vrai qu'on a senti, ça montait tout au long de la journée. Et puis, il y a eu cette explosion de joie avec le dernier point apporté par Sarah Léonie Cizik, qu'on a reçu d'ailleurs dans le podcasteur olympique, qui nous racontait qu'elle aussi, elle avait l'impression d'être dans une autre sphère. Et ça avait été un truc hyper, hyper fort. Laurent, toi, tu as choisi aussi un moment de judo pour ta plus grande émotion de ces Jeux.
Oui, et il y a des points communs. Alors évidemment, là, on n'était pas dans un team event. Moi, c'est Clarissa Agbayinou, mais plus que la victoire et la performance sportive, c'est vraiment la poignée de secondes qui ont suivi sa victoire. C'est-à-dire qu'elle bat en finale Tina Trstenjak, la Slovène, qui est sa grande rivale, qui a longtemps été sa bête noire. C'est les deux reines de cette catégorie. Et un petit peu comme ce que disait Cyril pour le team event, face au Japon, c'était la finale de rêve, donc le scénario idéal. Ben là, c'était un petit peu pareil. Donc, je ne veux pas dire que sa médaille d'or, elle aurait été moins belle contre une autre adversaire, mais c'était la cerise sur le gâteau d'affronter Trstenjak, qui est vraiment son pendant dans cette catégorie, qu'il avait battu en finale des Jeux en 2016. Et donc, au moment où Agbayinou gagne, elle fond en larmes. Et là, son visage, moi, c'est vraiment l'image que je garderai de ces Jeux, parce qu'en 3 secondes, il y a tout. C'est des larmes elle se met à pleurer instantanément. On sent que son visage est déchiré par l'émotion. Donc, on ressent tout, là, la joie, le soulagement. La consécration d'années d'efforts et de travail et d'une ambition après laquelle elle courait depuis très très longtemps. Et puis là, à ce moment-là, elle a une réaction complètement spontanée. Son adversaire est allongé sur le dos, elle vient d'être battue. Et la première chose que fait Clarisse Agbeninou, c'est qu'elle lui tombe dans les bras et Ter Steniak la prend dans les bras. Et il y a un côté presque maternel dans ce, à la fois fraternel et maternel. Et j'ai trouvé cette image vraiment très, très forte. Alors après, il y a l'autre image quand Clarisse Agbeninou va la soulever après qu'elle se soit saluée. Mais c'est vraiment cet instant-là, là où il y a tellement de spontanéité, pardon, et d'émotion dans ces quelques secondes. Qu'on sent, voilà, le combat est fini, elles se sont données à fond, et là, tout retombe, et il ne reste plus que l'émotion et le respect immense qu'on sent entre ces deux championnes.
Comme une sorte de passation, un petit peu, parce que son adversaire, Clarisse, avait été championne à Rio, et voilà, Clarisse prend la suite, et on sent que c'est deux immenses championnes, effectivement.
Ouais, même si elle l'avait dominée déjà depuis quelques années, le sportivement en tout cas, le passage de témoin avait déjà été fait. Mais oui, tu as raison, on est aux Jeux Olympiques, donc c'est là que tout se jouait d'une certaine manière.
C'est vrai que c'était un super moment. Je crois que ça nous a tiré une petite larmichette, hein, on va pas se mentir.
Ah, je sais que t'étais bien.
C'était un super moment, Maxime. Toi, c'est un cri, un énorme ouf de soulagement que tu as choisi pour ton émotion des Jeux.
Ouais, c'est quand j'ai entendu le générique de cette émission pour la première fois. De voir chevaux au bord tant pis comme ça, j'imaginais pas.
Eh bien, écoute, fais plaisir.
J'espère que tu nous rejoueras une petite partition avant la fin, parce que c'est le dernier podcast, il faut absolument que tu finisses sur un solo.
Tu sors un album ou pas,
Adrien? J'y pense.
Et ton petit solo de batterie, c'était fantastique.
J'ai été contacté par les majors.
Ah bah, j'imagine. Non, moi, c'est justement... Alors, Laurent parlait justement des petits moments qui nous séparent un peu de l'éternité, tout ça. Et là, moi, c'est le contre de Nicolas Batum. Voilà. Tout simplement, l'action défensive et peut-être même l'action la plus importante de l'histoire, de toute l'histoire du basket français. Et justement, il y a tout dans cette action parce que il y a peut-être un dixième de seconde ou même un peu plus longtemps où on se dit c'est foutu. Prepelic est passé. Faut rappeler ce qui se passe. On est à la fin de la demi-finale contre la Slovénie. Un petit point d'avance pour l'équipe de France. Le ballon est dans les mains de Luka Doncic. Normalement, Luka Doncic, on se doute qu'il va shooter. Il est dans son coin favori en plus. Il l'a déjà fait en NBA, mettre des shoot cloches à cet endroit-là. On se dit c'est parti. Il file le ballon après Pelic et là on se dit, on est presque soulagé de dire tiens, il a pas voulu prendre le shoot, il n'était pas très adroit. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Pelic rentre dans la défense française comme dans du beurre. Et là, il y a, je sais pas, j'ai l'impression que ça dure une éternité, mais finalement, ça doit s'étendre sur une seconde et demie, où Pelic rentre dans la raquette, il est tout seul. Enfin, honnêtement, là, le lay-up, il n'a plus qu'à déposer le ballon. Et puis d'un seul coup, Batum arrive derrière et il tape la balle contre la planche, il le contre évidemment, et c'est un contre d'éternité. Et ce que j'aime bien dans cette image, c'est évidemment le côté, c'est toujours le basket, c'est-à-dire il y a le côté dernière seconde où tout peut jouer, c'est une explosion, pour une fois c'est pas une action offensive sur laquelle on explose. Et puis il y a toute l'histoire autour de Batum qui fait qu'il a souvent été, on va dire, absent quand ça comptait très fort. Il y a eu des matchs où il est passé complètement à côté, et lui, il l'a dit, ce contre-là, finalement, il solde un peu tout. C'est pour les fois où j'étais passé à côté, et c'est l'explosion de joie qui t'emmène vers la médaille, vers la finale face aux États-Unis. C'est vraiment, voilà, il y a tout dans cette action-là, parce que tu as vraiment l'impression pendant la plupart du temps que c'est terminé, qu'il va aller déposer le ballon, et Batum arrive derrière, Batman, comme on le surnomme, qui vient pousser le ballon sur le contre, et c'est formidable.
Une énorme explosion de joie dans la rédac, hein, on peut aussi le dire. C'est vrai que toute cette quinzaine, ça a été rythmé par des cris de joie, et là il s'en a été un énorme. Merci Cyril d'être passé dans le podcast de l'Olympique. On va accueillir un autre journaliste de la rédaction pour évoquer à présent la plus grosse surprise des Jeux. Dans cette deuxième partie, on accueille Christophe Godot, journaliste à la rédaction d'Eurosport. Christophe, on a choisi avec toi d'évoquer la plus grosse surprise des JO. Vous avez choisi également chacun une surprise. Alors, quelle est la tienne?
La surprise pour moi, elle date un peu. On dirait que c'était il y a quasiment un mois, mais en fait, c'était il y a deux semaines. C'était sur l'épreuve sur route du cyclisme féminin. C'est Anna Kiesenhofer, l'Autrichienne qui a été championne olympique de cyclisme sur route. Alors, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait, tout simplement. Elle est partie au kilomètre zéro. Ça n'arrive absolument plus dans le cyclisme moderne. Pas chez les filles, pas chez les hommes, ça n'arrive plus. Elle est partie au kilomètre zéro avec deux autres concurrentes. Et elle est partie toute seule à 43 km de l'arrivée. sur la ligne au pied du Mont Fuji, elle a été championne olympique. Derrière, c'est Annemiek van Vleuten qui a passé. Et Annemiek van Vleuten pensait qu'elle était championne olympique parce que dans cette course, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'oreillette et que les Néerlandaises, a priori, se sont un peu emmêlées les pinceaux. Et elle pensait que tous les échappés avaient été reprises. Mais en fait, non, il en restait une, Anna Kiesenhofer. Et son histoire, elle est encore plus fabuleuse, c'est qu'elle n'est pas vraiment professionnelle. Elle a un job à plein temps à côté. Elle a fait une saison chez les pros en 2017, chez Lotto Soudal. Ça ne lui a pas vraiment plu. Enfin, elle n'a pas trouvé tout ce qu'elle voulait. Depuis, elle continue à courir. Elle court dans le peloton. Mais elle n'est pas professionnelle. Et là, elle a trouvé...
Comme Maxime, en fait. Il a un boulot à plein temps à côté.
Je ne permettrai pas personnellement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est, donc elle est amateur, comme je disais. Et en fait, quelque part, c'est un peu l'olympisme parfait. Voilà. Pour moi, c'était ça la surprise des Jeux.
C'est vrai que c'était assez incroyable quand la deuxième a franchi la ligne. Même Jackie Durand et Guillaume Di Grazia aux commentaires sur Eurosport ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quoi. Mais elle n'a pas compris. Elle est championne. Là, elle va falloir lui dire. Elle va mal le prendre. Et finalement, elle a quand même rebondi derrière.
Oui. Mais même l'assistant néerlandais qui vient l'attraper juste après la ligne ne lui dit pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il a un peu peur de lui dire, de lui apprendre la mauvaise nouvelle. Quoi. Mais oui, après, c'est reprise parce qu'elle a été championne olympique du contre-la-montre.
Ouais. Et il y a 5 ans, elle avait subi une énorme chute et on avait eu très peur pour elle d'ailleurs. Descente,
en fait, il y a 5 ans, elle devait être championne olympique et ouais. Elle avait chuté à Rio dans le final. Elle était toute seule et elle a chuté. Et voilà, une dernière chose sur l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, c'est la seule médaille d'or, tout simplement, la seule médaille d'or de l'Autriche. Donc leur seule médaille d'or, ils l'ont obtenue au bout de 2 jours. Quand même assez incroyable.
Ouais, c'est vrai que c'est une belle histoire, une sacrée surprise, évidemment. Ta surprise, Maxime, toi, elle est plutôt à chercher du côté des Italiens.
Ouais, et de la marque Bon Tant Pis. C'est la première fois que j'ai entendu le générique. J'ai été assez troublé. Mais bon. Bon non, pour être tout à fait sérieux, oui, c'est côté des Italiens et du sprint italien, évidemment. Alors, il y aura peut-être un jour à dire sur Jacobs, mais n'empêche que ce fut quand même 2 jours complètement fous, notamment pour l'Italie. Il faut savoir que l'Italie déjà a gagné 5 médailles en athlée, 5 en or. Donc pour eux, c'est complètement dingue. Et puis, il y a eu ce dimanche un peu fou avec Tamberi qui gagne la hauteur, avec Barchim à égalité. Et puis 100 mètres, voilà. Moi, ce 100 mètres-là, je le répète, il y aura peut-être des choses à dire plus tard, mais aujourd'hui, ça reste un 100 mètres un peu fou parce que on est parti des trois jeux remportés par Bolt. On avait un type qu'on connaissait déjà, un gagnant qu'on connaissait en avance. Là, on s'est retrouvé dans une situation un peu analogue à Paris 2003 où c'est hyper ouvert. Et au fur et à mesure du week-end, on voit arriver le Jacobs qui fait 9,94 au premier tour. Il bat le record d'Italie. 9,84 en demi, il bat le record d'Europe. Et puis, c'est 9,80 en finale. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce 100 mètres-là. C'est évidemment une immense surprise parce que déjà, pour retrouver un Européen gagnant le 100 mètres, il fallait remonter à 92. Et puis, un Italien, c'est comme si vous me disiez qu'un Français allait gagner le 100 mètres. Donc, il y a eu évidemment l'effet de surprise. Et je trouve qu'il est magnifié par ce quart d'heure un peu fou italien. Et avec l'image, il faut regarder. Ce qui est plus sympa presque sur le 100 mètres, c'est quand vous le voyez passer la ligne et que vous avez Tamberi au bout de la ligne droite qui l'attend avec le drapeau, bras grand ouvert. Donc, c'était un moment formidable. Et en effet, c'est une immense surprise parce que je pense que je ne sais pas combien étaient les cotes avant les Jeux, mais je pense que Jacobs n'apparaissait nulle part. Et même, je crois que c'est Kerley qui dit, l'Américain, qui dit « ce gars-là, je ne le connaissais pas ». Voilà. Donc, c'est pour moi l'immense surprise de ces Jeux olympiques.
Toi, Laurent, la surprise, elle est plutôt à chercher du côté de la Serbie avec plutôt une surprise qu'on n'attendait pas, là.
C'est le principe de la surprise en même temps, mais… Mais disons que moi, c'est une surprise plutôt négative. C'est-à-dire que des heureuses surprises, il y en a eu beaucoup. Là, on parle de quelqu'un qui était très attendu, au contraire. Et la surprise, c'est le fait qu'il se soit pris les pieds dans le tapis. C'est Novak Djokovic en tennis. Et à la limite, moi, avant les Jeux, j'avais quelques petits doutes, pas par rapport au niveau, évidemment, de Djokovic, mais de sa capacité à être vraiment dominateur à Tokyo parce que Wimbledon était juste avant. On parlait beaucoup de ce Golden Slam, etc. Donc le Golden Slam, la possibilité de gagner les 4 grands chelems plus les Jeux dans la même année. Et donc, comme il avait déjà eu pas mal de malheurs aux Jeux, je demandais un peu à voir s'il allait pouvoir tenir. En revanche,
une fois qu'il est arrivé en demi-finale du simple messieurs, en marchant sur tout le monde, en déroulant comme il sait le faire et comme il le fait depuis des mois, et en plus il était en demi-finale du double mixte, là en revanche, ce qui s'est passé en l'espace de 24 heures où il a tout perdu, c'est-à-dire il a perdu d'abord en demi-finale du simple messieurs contre Sacha Zverev, alors qu'il menait 6-1, 3-2 service à suivre, donc tout allait bien, et derrière il a perdu 10 jeux de suite, je crois, il n'a plus marqué qu'un seul jeu jusqu'à la fin du match. Dans la foulée, c'est plus anecdotique, mais ça vient rajouter une couche, il perd la demi-finale du double mixte, et le lendemain, il va perdre la finale pour la médaille de bronze en simple contre Pablo Carreño Busta, et il va déclarer forfait pour la petite finale en double mixte parce qu'il était vraiment complètement rincé physiquement et psychologiquement. Et j'avoue très humblement que je n'ai pas vu venir cet épisode-là. Si vous m'aviez dit au matin de ces deux demi-finales, Djokovic, dans 24 heures, il va repartir sans rien, sans aucune médaille, je l'aurais pas cru. Donc, pour moi, ça reste un des événements les plus surprenants de ces Jeux. Parce que, encore une fois, vraiment rien ne l'indiquait encore juste avant que l'événement ne se produise.
Merci messieurs pour vos trois surprises. On va passer à une autre catégorie que Laurent, tu nous as soumis l'idée. On a trouvé ça plutôt sympa. Les stars oubliées. C'est vrai qu'on parle beaucoup des immenses stars, mais il y en a qui gagnent beaucoup de médailles, qui gagnent des titres, mais on ne s'en souvient plus du tout. Christophe, qui est-ce que tu as choisi ?
L'archer Hansan. Vous n'avez sans doute pas vraiment entendu parler d'elle, mais elle est quand même triple médaillée d'or olympique. À Tokyo, il n'y en a pas 1000 des triples médailles d'or olympiques, il y en a 6. Il y a évidemment Caleb Dressel, évidemment Emma McKeon, mais il y a aussi Hansan, donc, qui a remporté ses trois épreuves, tout simplement, en tir à l'arc. Pour elle, c'est déjà exceptionnel, puisqu'il n'y a que deux Coréens qui avaient remporté 3 médailles d'or dans des JO, mais c'était aux JO d'hiver. C'était Victor Han, donc, qui est devenu russe depuis, et Jun en patinage de vitesse. Au JO d'été, ça n'avait tout simplement jamais été fait. Donc déjà, rien que ça, c'est exceptionnel. Et en plus, il faut savoir qu'elle a créé un peu la polémique en Corée du Sud parce que elle a les cheveux très courts. Et pour certains, c'est un symbole de féminisme et ça ne passe pas vraiment là-bas. Donc elle a marqué les Jeux sportivement, mais aussi hors du terrain, j'allais dire.
Tu as cité parmi les autres médaillés, McKeon, c'est le choix de Maxime.
Ouais, alors tu as dit évidemment, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une évidence, McKeon. Il faut savoir que McKeon est tout simplement l'athlète la plus médaillée de ces Jeux. Elle a gagné 7 médailles, donc 4 titres olympiques. Évidemment, son problème, je pense, dans les bassins, c'est d'être à côté de Caleb Dressel, qui a vampirisé toute l'attention, 5 médailles d'or. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qu'elle a fait, c'est tout abonnement exceptionnel puisqu'elle gagne le 50 mètres nage libre, le 100 mètres nage libre aussi en individuel. Évidemment, rien que ça, normalement, ça devrait vous mettre dans une sphère médiatique exceptionnelle. Or, hormis en Australie, c'est passé presque inaperçu, sans doute aussi, encore une fois, je le dis, à cause de Caleb Dressel. Elle a ajouté le 4x100 nage libre et le 4x104 nage. Donc, 4 titres, 7 médailles, c'est un peu plus du tiers de tout ce que l'Australie a gagné dans les bassins. Donc, c'est tout bonnement exceptionnel. Et c'est vrai que je suis étonné que ce soit passé sous silence. Même, on va être honnête, même nous, on n'en a pas fait un événement. Alors, il faudra regarder à quel moment sont tombées ces médailles, ce qu'il y avait en face dans l'actualité française. Mais c'est presque passé inaperçu. Finalement, c'est presque en regardant tout simplement le tableau médaille qu'on se rend compte qu'elle a fait des Jeux exceptionnels. J'espère que dans son pays, j'imagine que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas passé inaperçu, parce que cette médaille, ce n'est pas tous les jours. Et gagner le 50 et le 100 en nage libre, c'est assez formidable. Donc, bravo à McKeon.
Lui rend un bel hommage. Laurent, toi, tu as choisi une autre discipline, c'est en sabre.
Oui, en escrime, un sport qui me tient à cœur. Et en sabre, effectivement, le sabre, c'est vraiment le truc des Hongrois. On parle de l'école hongroise. Il y a une école hongroise en escrime, mais particulièrement au sabre, qui remonte à très très longtemps. Et Aaron Shilagi, qui est la dernière star entre guillemets du sabre hongrois, avait été sacré champion olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Et donc il arrivait à Tokyo pour accomplir ce qu'aucun escrimeur n'avait jamais accompli chez les hommes, c'est-à-dire devenir 3 fois de suite champion olympique en individuel dans une arme. Il n'y avait que Valentina Vezzali, la reine du fleuret, l'italienne, qui avait réussi ça. Et Aaron Shilagi, dès le premier jour de compétition, le lendemain de la cérémonie d'ouverture, le samedi 24 juillet, il s'est imposé, triple champion olympique, il devient une légende de l'escrime. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'a jamais été champion du monde en individuel. Donc, c'est un garçon qui choisit bien ses moments, mais ses 3 médailles d'or, surtout dans un sport comme l'escrime, pèsent évidemment bien plus que s'il avait eu peut-être 2 médailles d'or ou 1 médaille d'or olympique et 4 ou 5 titres de champion du monde. Donc, c'est un exploit colossal. Il a ajouté une médaille de bronze dans l'épreuve par équipe. Mais c'est vraiment ce triptyque Londres, Rio, Tokyo qui le fait changer de dimension et qui le fait vraiment entrer dans la très grande histoire de ce grand sport olympique. Et comme c'était, Christophe en parlait tout à l'heure à propos du cyclisme sur route dans sa surprise, mais là c'est pareil, c'était au tout début des Jeux, c'était vraiment le premier jour. Donc on est au jeu, une émotion et une performance en chasse très vite une autre. Et donc j'avais envie de rappeler cette perf de Shilagi.
De belles histoires, messieurs. Merci d'avoir partagé ces moments, ces surprises, ces émotions. On va passer tout de suite à la question qui fâche. La question qui fâche, aujourd'hui, on va se concentrer sur le bilan des médailles. Pour en parler, on accueille Raphaël Brosse, journaliste de la rédaction, spécialiste notamment du judo. Il a participé à plusieurs reprises à l'Euro Olympique. Alors, la question qui fâche, on a eu 33 médailles. Est-ce inquiétant en vue de Paris 2024 ? Laurent.
Oui, forcément, dans la mesure où c'est quand même le plus faible bilan pour une délégation française en nombre de médailles depuis au XXIe siècle, on va dire. 33 médailles, c'est le même bilan qu'à Athènes en 2004. Ce qui sauve un tout petit peu les meubles, ce sont les 10 médailles d'or. Il y a eu les médailles en sport co qui ont... Ces 3 titres-là ont permis quand même d'embellir le bilan à ce niveau-là. Et après, tout dépend avec quel prisme on regarde. À Pékin, par exemple, en 2008, il y a eu énormément de médailles, mais un déficit de titres. Je crois qu'il n'y a eu que 7 titres à Pékin. Donc, on pourra toujours dire que 10 médailles d'or. Finalement, d'ailleurs, au tableau des médailles, on le voit, la France termine devant l'Italie.
On a la 8e place, oui.
Voilà, même nombre de médailles d'or que les Italiens. Mais parce qu'on a une médaille d'argent ou 2 médailles d'argent en plus, on termine devant eux. Alors moi, je ne suis pas emballé par ce qu'on appelle le tableau des médailles officielles, c'est le tableau des médailles d'or en fait. Et moi, je préfère les jeux qu'ont fait les Italiens, qui ont 10 titres comme nous, mais 40 médailles, que les jeux des Français. Alors maintenant, par rapport à Paris 2024, c'est vrai que Claude Onesta, qui est le directeur, le manager de la performance de haut niveau, enfin, je ne me souviens plus son titre exact, à l'ANS, avait clairement dit que Tokyo devait servir de tremplin pour Paris. Donc là, le compte n'y est pas du tout. Si vous regardez par exemple les Britanniques, qui à Atlanta, à Sydney, à Athènes, avaient fait des jeux très moyens, à Pékin, qui était leur jeu d'avant Londres, c'était leur Tokyo à eux, ils avaient effectuer un bond dans la hiérarchie et en nombre de médailles très impressionnant. Donc, c'est un petit peu ce qu'espérait le CNOSF et la délégation française. Or là, on a quand même sensiblement reculé. On passe on a perdu presque une dizaine de médailles en 5 ans. Donc oui, c'est inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a des sports majeurs de l'olympisme où vraiment on a du mal à voir des solutions à court terme. Or là, on est vraiment dans le court terme. On ne va pas révolutionner le sport français en 3 ans. Ce n'est pas possible. Donc, prenez un sport comme l'athlétisme, une seule médaille, très très peu de finalistes. Ce qui est encore plus inquiétant que d'avoir une médaille, c'est d'avoir 8 finalistes. Les finalistes, ce sont ceux qui terminent dans les 8 premiers. Donc, c'est inquiétant. Claude Onesta a dit qu'ils allaient, plutôt que de faire la révolution qui n'est pas possible de faire, ils allaient cibler, faire un accompagnement spécifique pour permettre d'optimiser la performance quasiment athlète par athlète. Donc, plus que de s'occuper des sports, on va s'occuper des athlètes dans chaque sport pour essayer de les amener à l'excellence. Donc, après... quel objectif sera fixé pour 2024 ? Je rappelle quand même que Laura Flessel, qui avait précédé Roxana Maracineanu au ministère des Sports, avait dit en 2017 qu'il fallait viser 80 médailles. Aujourd'hui, honnêtement, 80 médailles, même avec un effet domicile, même avec le fait d'être engagé dans beaucoup plus d'épreuves parce que vous êtes le pays organisateur, ça paraît, ce serait un miracle, vraiment. Donc, il faudra voir ce qui est possible de faire. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des très bon jeu pour la délégation française, ça c'est clair.
Raphaël, toi on parlait, le judo, ça a été quand même un pourvoyeur de médailles. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir à chercher dans certains sports, escrime, je pense, judo ?
Alors moi déjà, là où j'ai beaucoup d'espoir, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui ont donné rendez-vous pour Paris 2024. Donc ça veut dire qu'on aura une très grande délégation avec beaucoup d'athlètes très motivés. Bon. Trêve de plaisanterie, effectivement, le bilan n'est pas très bon, mais tu l'as dit, Adrien, certains sports bastions, comme le judo, ont quand même répondu aux attentes et il y a encore une marge de progression en judo notamment. Je pense aux titres que certaines n'ont pas pu aller chercher et que d'ici 3 ans, potentiellement, il y aura eu plus d'expérience. Et je pense vraiment que le bilan du judo pourrait être encore meilleur dans 3 ans. Mais évidemment, il va falloir aller chercher des médailles dans d'autres domaines où nous avons été très, très déficients cette année. Laurent parlait, l'athlétisme et la natation sont deux disciplines très grosses pourvoyeuses de médailles. On peut aussi ajouter le cyclisme. 3 disciplines dans lesquelles les Français n'ont pas vraiment brillé, c'est moins qu'on puisse dire. Ce que je remarque, c'est que à Londres, l'athlétisme avait été un petit peu en dents, quoique il y avait quand même le titre de Renaud Lavilloni, mais on a eu la natation qui a ramené cette médaille. À Rio, c'était un petit peu une situation inverse. L'athlétisme avait permis de combler un petit peu les lacunes de la natation. Là, que ce soit en natation ou en athlé, ça a été compliqué dans les deux cas de figure. Et oui, le problème, c'est qu'en 3 ans, on va vraiment avoir du mal à faire monter le total de médailles de ce point de vue-là. On parlait de l'exemple britannique tout à l'heure. Ils n'ont pas changé en 3 ans, ils n'ont pas réussi en 4 ans à devenir extrêmement performants. C'était quelque chose sur du très long terme. Leur stratégie, la stratégie de Yuki Sport, elle a été mise en place sur 20-25 ans avec des moyens et des investissements autrement différents que ceux que l'on a en France culturellement parlant. Donc, moi, les 80 médailles, ça me paraît être un objectif tout à fait illusoire. Peut-être 50, peut-être 60, c'est encore trop tôt pour donner un objectif chiffré. Il y a une marge dans certains sports forts. Donc, on parlait de judo, on parlait de l'escrime. Il y a aussi beaucoup de médailles à aller chercher dans d'autres domaines, mais le retard paraît conséquent, très clairement. Donc, oui, comme disait Laurent, il va falloir ajuster un petit peu, voir en fonction des athlètes à potentiel, cibler les investissements. C'est difficile de parler comme ça quand on parle de performance humaine, mais c'est un petit peu la réalité là en ce moment. Et puis voir ce que ça va donner. Mais effectivement, le Tokyo n'a pas été vraiment un tremplin, le tremplin que l'on pouvait espérer en tout cas.
Je pense qu'il faut clairement oublier ces 80 médailles. Ça a été dit il y a quelques années. Il faut être un peu plus réaliste. Est-ce qu'à 50 médailles, on serait déjà content du bilan?
Déjà, là, au départ, 80 médailles, ça paraît complètement fou. Parce que là, tu doubles déjà ton capital, on va dire, habituel ou ton plus haut, on va dire, sur les 25 dernières années. Je trouve que 60 médailles, déjà, c'est remarquable pour un pays comme la France, parce qu'il faut toujours prendre en compte la relation au sport, la démographie, toutes ces choses-là. Donc déjà, 60 médailles, ce serait formidable. Mais après, voilà, c'est une fois qu'on a dit ça, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas juste l'effet domicile qui va faire qu'évidemment que ça va pousser les athlètes. On sait très bien que l'adrénaline, tout ce qui se passe dans un stade, ça aide à gagner. Le sport français est bien placé pour le savoir. Mais on ne peut pas le décréter ainsi. Les Anglais, ce qui est intéressant, c'est que leur point bas, c'est Atlanta 96. C'est, je crois, 15 médailles et un titre pour Redgrave. Voilà. Ils ont un titre olympique et là, ils disent non, mais là, ça ne va plus du tout. Là. C'est l'empire des clients, etc. Puis après, ils récupèrent les Jeux de Londres et donc ils commencent à dire il va falloir investir. Et le problème, c'est que je pense qu'en France, on a un problème culturel par rapport à ça. C'est que l'investissement a été fait par le public, mais aussi beaucoup par le privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il faut qu'on retrousse les manches et que le privé participe aussi à cibler parfois des athlètes, à les aider. Ce n'est pas un gros mot d'investir. Aujourd'hui, l'un ne va plus sur l'autre. Ce n'est pas seulement en claquant des doigts qu'on gagne des titres. Donc, le souci, c'est qu'il faut aller vers ça. Il faut peut-être aller même démarcher. Je ne sais pas comment fonctionne aujourd'hui le sport français autour de ça, mais il faut carrément y aller parce qu'en plus, à la décharge du sport français, bon, c'est un peu pareil pour tout le monde, mais il y a eu le Covid qui n'a pas aidé. Voilà, il y a eu sûrement du retard qui est lié à ça. Maintenant, il faut se dire que les Jeux, c'est dans 3 ans. Et dans 3 ans, c'est Laurent qui dit ça, il me semble, on ne révolutionne pas un sport et le sport français en général. Donc, à part commencer à mettre vraiment le paquet sur les sportifs, les aider aussi à pouvoir ne se consacrer qu'à leur discipline, c'est important. Voilà, on ne peut plus être dans l'entre-deux si on veut vraiment aller au bout de nos ambitions. Et encore une fois, 80 médailles, ça me paraît beaucoup. J'ai regardé sur Tokyo, je crois qu'on a en plus 13 médailles qui sont issues du collectif, c'est-à-dire entre les équipes d'escrime, le judo, ça, et c'est presque ça. Alors c'est bien, mais c'est un tout petit peu cache-misère parce qu'on a besoin d'individus qui peuvent aller taper beaucoup de médailles. Il n'y a pas de secret, si on veut taper beaucoup de médailles, il faut en avoir en natation, en athlé. Voilà, les grosses disciplines qui sont pourvoyeuses de médailles. Les États-Unis, c'est 30 médailles en natation, 26 en athlétisme. Alors, on n'arrivera pas à leur niveau, mais déjà, monter à 4, 5, 6 dans les deux disciplines, ça change beaucoup de choses sur le final. Après, encore une fois, 80, ça me paraît quand même très illusoire, à moins d'avoir une réforme qui fasse qu'on compte maintenant les médailles, une médaille pas sportive quand on gagne en handball.
De toute façon, quand tu fais deux médailles au cumul athlétisme natation, c'est forcément difficile quand même. C'est un énorme handicap de pouvoir faire ne serait-ce que 35 ou 40 médailles. Ouais. C'est très compliqué. Donc, il faut se souvenir qu'à Rio, par exemple, il y a deux sports, athlée et boxe, qui eux deux avaient ramené 12 médailles. Voilà. À Tokyo, c'est une. Donc, le déficit, il peut très, très vite monter. C'est pour ça que moi, plutôt que de compter sur le... Oui, le judo peut mieux faire.
Mais c'est déjà pas mal, ouais.
Ouais,
c'est pas là où il y a la marge. Ouais.
L'escrime peut mieux faire. L'escrime a fait 5 médailles dans 2 titres, alors que plusieurs de ses leaders sont passés au travers en individuel. Donc, le bilan aurait pu être encore meilleur. Mais des jeux, c'est ça. C'est forcément, dans chaque sport, des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Et cet équilibre-là, il existera toujours et on ne maximisera jamais un potentiel de médaille. En revanche, il faut bouger le curseur vers le haut. Je crois que là, il y avait à peu près, en étant raisonnable, c'est-à-dire en regardant le potentiel, épreuve par épreuve, la France avait une 60aine de chances de médaille. Mmh. C'est-à-dire une 60aine d'épreuves où il était légitime de considérer qu'un Français, une Française ou une équipe française pouvait monter sur le podium. On en a 33 à l'arrivée, c'est-à-dire à peu près un tout petit peu plus d'un sur deux. Pour que des jeux soient réussis, il faut être plutôt à 75% qu'à 50% dans ce domaine-là. Donc, il faudra petit à petit, au fil des prochaines échéances, sport par sport, voir quel est le potentiel de médaille de la France. Et s'il est de 80 avant les Jeux de Paris, eh bien, dans ce cas-là, il faudra essayer plutôt de faire... 60, les deux tiers que la moitié en termes de potentiel. Et c'est comme ça qu'on pourra savoir à peu près ce que peut espérer la France dans 3 ans à Paris. Mmh. Mais on ne peut pas le savoir aujourd'hui.
Ouais, et puis là, on reste sur un week-end exceptionnel. On finit les Jeux sur une super note qui embellit le tout. Et imaginez qu'on n'ait pas eu ce week-end fou de sport collectif. Parce qu'il faut aussi dire, c'est que ils sont à un très haut niveau de performance. On ne devient pas champion olympique par hasard. Mais refaire la même chose à Paris, ce sera quand même compliqué. Donc, il y aura aussi besoin de trouver, comme tu dis, Laurent, ces autres chances de médaille et aussi les personnes qui vont surperformer le Pierre-Ambroise Boss sur 800 au championnat du monde, qui va sortir la course de sa vie à ce moment-là. On a aussi besoin de ces personnes-là parce qu'encore une fois, 60 médailles, ça ne se trouve pas comme ça sous le sabot d'un cheval. Il va vraiment falloir avoir tout qui est réuni en 3 ans. Ce sera compliqué parce que ça arrive très, 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 très vite.
On va espérer aussi, peut-être, pourquoi pas, des médailles venant des nouveaux sports. Hein. On parle du breakdance. C'est vrai que c'est assez flou, mais peut-être des nouveaux sports où les Français brillent. Et... Oui, Par contre, on ne pourra plus compter sur le karaté, voilà, qui sortira du programme des Jeux.
Non, et puis je voulais rajouter une chose. Effectivement, il faut préciser qu'en tant que pays organisateur, on aura des athlètes qualifiés dans absolument toutes les disciplines, sport collectif et individuel. Bon, alors, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir viser l'or tout de suite en waterpolo ou en hockey sur gazon, soyons honnêtes, mais ça va permettre à certains athlètes d'avoir l'assurance d'être qualifiés dans d'autres sports majeurs.
C'est sûr que le processus de qualification qui est source de complications et de stress et qui change la préparation, c'est sûr que c'est vraiment idéal de pouvoir se préparer en sachant qu'on sera là. Et après, le truc, c'est qu'on a beaucoup moqué pendant 15 jours les athlètes qui disaient « je prends rendez-vous pour Paris 2024 », mais pour beaucoup, c'est vrai. Quand vous avez un Maxime Grousset qui fait 4e du 100 mètres nage libre, quand vous avez un athlète qui a 20-21 ans et qui est au pied du podium ou qui est finaliste, évidemment, c'est facile de le moquer quand il dit, parce qu'il est le 15e ou le 20e, à le dire « je prends rendez-vous pour Paris 2024 ». Mais c'est vrai, une carrière olympique, comme une carrière sportive tout court, c'est aussi une maturation dans le temps. Et pour certains, Tokyo venait un peu tôt, mais ce qu'ils ont fait à Tokyo servira peut-être pas pour tous. Je ne vous dis pas que Maxime Grousset va être champion olympique du 100 mètres nage libre dans 4 ans. Mais tout le monde n'est pas capable d'être champion olympique à 17 ou 18 ans. Tout le monde n'est pas leur Manodou. En revanche, certains vont capitaliser sur ce qu'ils ont vécu à Tokyo et dans 3 ans à Paris, ce n'est pas en finale ou à la 4e place qu'on les attendra, c'est sur le podium. Alors si à Paris, ils nous disent « j'ai pris rendez-vous pour Los Angeles », il sera temps de vraiment se moquer d'eux. Mais en attendant, il y a une part de vérité là-dedans.
Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, à cette question qui fâche. On croise les doigts, on espère que les sportifs ramèneront le plus de médailles possible pour Paris 2024. On va passer à la dernière séquence, retour de Tokyo. Dans Retour de Tokyo aujourd'hui, on reçoit Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaillée de bronze en voile en 4,70. Ça fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes parmi les dernières qu'on reçoit. On a reçu beaucoup d'invités. Une nouvelle médaille de bronze pour la voile. J'imagine que ça doit vous rendre hyper fière.
Ouais, c'est une super belle médaille. Moi, c'est ma première médaille olympique. Camille, la deuxième. Mais ouais, c'est beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Et ça fait du bien de rentrer en France pour pouvoir fêter ça.
Ça a été une course d'ailleurs avec pas mal d'émotions, surtout après. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé avec la réclamation notamment, et comment vous avez vécu ces moments-là qui sont très particuliers parce que vous avez tout donné sur l'eau et puis après il y a encore des moments d'attente derrière.
Déjà, ça ne s'est pas résumé en juste la finale. Il y a eu avant ça 6 jours de course où on a fait 10 manches en tout, et donc on a cumulé nos points. Donc on est arrivé en medal race avec un certain nombre de points, malheureusement une 14aine de points de retard sur les Anglaises et quelques petits points d'avance sur les Polonaises. Donc c'était pas une configuration qui était très simple pour aborder la medal race, parce que on avait les Anglaises qui essayaient de nous contrôler, de nous gêner pour pas qu'on termine bien, et puis les Polonaises qui essayaient simplement d'être devant nous à la manche pour pouvoir espérer être devant au classement. Donc on savait que ça allait être assez dur d'être libre pour faire notre stratégie pendant cette manche. Et puis effectivement, sur le dernier bord, donc on était toujours en position d'avoir l'argent quand on a vu les Anglaises en fait faire des trajectoires et des manœuvres un petit peu bizarres et qui à la fin sur la dernière bouée sont venues s'intercaler entre nous et les Polonaises. Donc on a eu des doutes en fait sur pourquoi elles avaient fait ça, etc. Et donc, on a apporté une réclamation à la fin de la manche pour éclaircir justement ces doutes. Et c'est vrai que ça a laissé un petit moment de flottement après la manche, le temps de passer devant le jury et d'éclaircir ces doutes. Et voilà, on n'a pas tout de suite pu célébrer la médaille de bronze.
Mais aujourd'hui... Vas-y.
Non, j'allais revenir là-dessus. Comment vous... Vous êtes allé leur parler, par exemple, aux Britanniques, pour comprendre, ou non, vous laissez ça dans les mains des juges?
Y a quand même un protocole assez strict. La réclamation, il faut la déposer au juge. Et c'est vrai qu'avant, du coup, de comparaître devant ces jurys, il y a quand même un moment où il ne faut pas aller voir l'adversaire. Après, les jurys ont délibéré. Quand ils nous ont donné le verdict, ensuite, on a échangé... avec elle, et puis on a accepté la décision du jury. En fait, on a fait cette réclamation aussi parce qu'en medal race, tout va très très vite. Il y a un arbitrage direct, mais les arbitres ne peuvent pas toujours juger ce qui se passe, parce qu'en fonction de l'état de mer, tout ça, c'est un peu être compliqué à juger. Donc, en fait, on a eu un arbitrage vidéo, on va dire, en quelque sorte, après coup. Et voilà, il n'y a pas eu de guerre avec les Anglaises à l'issue de la réclamation.
Non, mais vous ont dit quoi, justement, quand vous êtes allé les voir?
En fait, on s'est chacune expliqué sur nos positions. On leur a expliqué qu'on avait eu des doutes mais qu'après visionnage de
la manœuvre,
de la manœuvre, on ne pouvait pas... C'est vrai qu'on... pouvait pas ça explique pas tout, mais on saura jamais, en tout cas on saura d'accord. jamais peut-être mais, qu'elles ont mais... simplement mal... Une chose est certaine, c'est qu'elles ont mal navigué sur cette portion là et donc elles sont venues s'intercaler quoi. Mais elles ont compris notre position, elles ont compris qu'il y avait aussi beaucoup d'enjeux et que c'était aussi un droit de faire cette réclamation.
Mais pour être clair, est-ce que, parce que j'ai lu, et là vous le dites, que vous avez accepté la décision du jury, j'ai même cru lire que vous aviez dit que ça avait levé vos doutes. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun doute sur la nature de leur manœuvre. Et après, je ne connais pas le background, mais quel aurait été leur intérêt? En fait, pourquoi est-ce qu'elles auraient volontairement fait cette manœuvre pour que les Polonaises, plutôt que vous, aient la médaille d'argent?
Alors, le pourquoi, on n'a pas trop d'explications. C'est des personnes qu'on connaît depuis longtemps. On fait beaucoup de régates avec elles. Il y avait beaucoup de phases finales qu'on avait gagnées contre elles. Donc voilà, ça, En fait, on ne saura jamais, et c'est pour ça qu'on ne garde pas les doutes et qu'on ne laisse plus de place à ces questionnements-là. Ouais, parce que voilà, nous, on veut célébrer notre médaille. On aurait pu engranger des points d'avance plutôt dans la semaine si on avait encore navigué avec, des meilleures sensations. Donc voilà, maintenant, en fait, on ne se pose plus la question et on savoure. C'est le jeu du sport, en fait. Il y a des règlements, il y a des procédures. Et voilà, la procédure a abouti sur ce résultat-là. Et nous, on a envie de profiter maintenant.
Et alors, j'ai une autre petite question par rapport à ça. Est-ce que le fait que votre réclamation, elle jouait en fait entre est-ce que vous allez avoir le bronze ou l'argent ? Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que vous arrivez globalement à l'accepter ? Parce que si ça avait été entre une médaille d'argent et une médaille d'or, je pense que là, ça aurait été... évidemment, l'argent, c'est mieux que le bronze. Mais la différence entre l'or et l'argent est sans doute beaucoup plus importante qu'entre l'argent et le bronze.
Non, ce qui fait aussi qu'on l'accepte, c'est que dans notre discipline, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et ce que font les adversaires, leur trajectoire, leur décision stratégique, on n'a aucune influence sur ce qu'elles vont faire. Et malheureusement, ça fait partie du jeu aussi que des bateaux, des fois, perdent des places ou en gagnent ou viennent s'intercaler à certains endroits. Et donc, c'est ça qui nous a fait aussi accepter, c'est qu'on s'est rappelé que dans notre sport, oui, on ne peut pas maîtriser ce que font les autres. Quand les autres font des erreurs, ça nous est bénéfique. Et quand les autres ne font pas d'erreurs et que nous, on en fait, c'est nous qui rétrogradons. Donc, comme disait Aloïs tout à l'heure, des points perdus, on peut aller en chercher ailleurs. La semaine a été très longue, on a fait aussi des petites erreurs quelquefois, et les autres, clairement, en ont fait moins que nous, quoi.
Camille, toi, tu as obtenu ta deuxième médaille de bronze, 4 ans après celle obtenue à Rio déjà. Quelle saveur elle a ? Les conditions étaient différentes, mais voilà, comment tu les savoures, les deux ?
Les scénarios étaient vraiment différents. À Rio, avant cette finale, on n'était pas sur le podium avec Hélène, on était, je crois, en 4e ou 5e position. Et donc, là, à l'inverse, on a une super décision qui fait qu'au dernier moment, on double pleine personne et qu'on finit avec la médaille de bronze. Donc forcément, je pense que la joie est plus forte quand ça se finit dans ce sens-là. Là, dans notre cas, à Tokyo, on était en 2e position dans une situation pas facile. Et on va dire que, oui, on perd l'argent pour le bronze, mais donc... Il y a forcément un petit mélange à chaud, il y a un tout petit peu de déception. Et puis, en fait, plus le temps passe et plus on se dit que c'est quand même super d'avoir ramené une médaille olympique. Voilà, donc la joie domine maintenant et on a vraiment hâte d'aller la partager avec nos proches.
Alors moi, j'ai une question un peu de béotien. Je lis souvent avant la medal race des gens dire nous la medal race c'est notre spécialité, on est très bon là-dedans. Je sais que Charline Picon disait ça, je crois que vous aviez dit ça aussi, que c'était un de vos points forts. Qu'est-ce qui différencie la medal race en dehors du nombre de concurrents des autres régates? Qu'est-ce qui est si différent?
C'est hyper différent. Déjà, pour le nombre de concurrents, on n'est plus que 10, hein, donc ça change quand même beaucoup la manière de naviguer. Et puis, la durée de la manche aussi, nous, une manche classique, ça dure entre 50 minutes et 1 heure, normalement. Là, c'est un format qui dure 20 minutes et surtout, les points, ils comptent double. Donc, il y a vraiment un gros enjeu sur cette manche-là. Nous, c'est vrai que c'est devenu, au fur et à mesure des années, dans notre équipage, un point fort parce que c'est une compétition où le stress est très important parce qu'il y a, c'est pour ça que ça s'appelle medal race. Hein, les médailles, elles se décident vraiment sur cette manche-là. Et nous, on avait réussi à faire ce travail, de travailler pour savoir naviguer proprement sous pression. Et c'était devenu un point fort par rapport à nos autres concurrentes. Après, chaque scénario de medal race est différent. Et c'est vrai que là, on était dans une position qui était très difficile parce que l'anglaise avait beaucoup de points d'avance. Et pour elle, en fait, c'était très facile de nous contrôler, de nous marquer sans prendre de risque, en fait, pour sa position. Donc, on va dire qu'on avait plutôt tout le monde contre nous plutôt que Enfin, on avait tous les gens qui voulaient que défendre leur place et ben, nous, on n'était pas dans la position la plus facile à gérer en termes de points.
Ouais, vous étiez en tête, en fait, vu que les Anglaises étaient assez confortables, vous étiez en tête de l'autre course, quoi. Voilà, celle pour les médailles.
Ouais. Et puis, enfin, le fait que l'Anglaise ait beaucoup de points d'avance, on était vraiment les personnes pour elle les plus dangereuses. Et donc, ça fait qu'on avait un bateau qui pouvait complètement dédier sa manche à essayer de nous faire rater l'autre. Ouais.
Vous avez vécu plusieurs jours au village olympique. On entend beaucoup de choses. Il y a pas mal d'athlètes qui sont venus nous raconter un petit peu les coulisses. Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez croisé comme star, comment ça marche.
Déçu, hein.
Ah bah alors.
Ouais, vous allez être déçus parce qu'on a passé que quelques heures au village olympique. En fait, nous, on était dans un hôtel proche de la marina d'Enoshima entre membres de l'équipe de France de voile. Donc, on a seulement eu l'autorisation, quand la compétition a été terminée, d'aller au village. Donc, on a pu découvrir le village deux jours. Voilà, et on a croisé quelques athlètes, mais pas de grosses stars, hein, je crois, à part les athlètes français, évidemment, encore en lice.
Ça, c'est une petite frustration, ça, d'être un petit peu en dehors du reste des athlètes, où vous avez un peu l'habitude souvent en voile, non ?
On a l'habitude en voile quand même de pas beaucoup se mélanger, on va dire, avec les sports de terre, quoi. Mmh. Bon, c'est sûr que c'était une petite frustration, surtout au moment aussi de la cérémonie d'ouverture, qu'on n'a pas pu faire, du coup, qu'on était vraiment isolés dans notre bulle sanitaire à une heure de Tokyo. Voilà, bon, après, on est quand même contente d'avoir pu faire cette petite sortie le dernier jour au village olympique. C'était un peu notre journée à Disneyland. C'était cool, mais bon, là, va falloir vivre d'autres Jeux olympiques maintenant pour aller découvrir le reste du village.
Ça tombe bien, c'est dans 3 ans, à Paris 2024. On vous souhaite le meilleur. Je sais que vous allez repartir là dans vos familles du côté de Brest pour fêter vos médailles. Encore félicitations. Merci d'être venu dans l'heure olympique. Et puis, on se dit à bientôt. Salut.
À bientôt, merci.
Merci beaucoup.
L'heure olympique, c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette quinzaine. Demain, vous retrouverez un best-of des invités, les meilleurs passages des médaillés dans l'émission. Il ne me reste plus qu'à remercier nos auditeurs. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Un grand merci à vous aussi, messieurs. Ce fut un plaisir de participer à ce podcast. On remet ça à Paris ?
Prends date. Prends rendez-vous pour Paris, nous aussi.
Ou à Pékin.
Ou à Pékin. Et tu parlais tout à l'heure de croiser les doigts, Adrien. J'espère que toi, tu vas bien te les détendre pour nous jouer un dernier concerto de Montampi.
Exactement. Je lance ça de suite après vous avoir salué. Profitez bien et on se revoit très vite.
Allez, merci à toi.
Adrien. Salut, merci. Salut. Merci, Adrien.
Ciao.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.